Voilà, donc pour ce message, je prends comme référence le chapitre 8 de la seconde aux Corinthiens, le verset 9. Le titre de ce message, c'est « Christ, les apôtres, les disciples et les pauvres ». Alors, chapitre 8, verset 9 de cette seconde aux Corinthiens. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Je commencerai par rappeler le grand plan de Dieu, tel qu'il apparaît dès l'Ancien Testament, et à partir aussi de deux femmes qui ont été inspirées et qui ont salué à la faveur de leur expérience de la grâce de Dieu, l'intervention divine au sein de la société humaine. L'une, c'est Anne, dans une première attente de la venue du roi, son cantique lorsqu'elle a été exaucée de sa prière. Et puis la seconde, ben c'est tout simplement Marie lorsqu'elle a accueilli la venue du roi. Toutes les deux ont exprimé la volonté de Dieu de renverser les hiérarchies terrestres, puisque dans le cantique de Anne, nous trouvons donc, c'est 1 Samuel 2, verset 1 à 10, mais je prends juste un extrait. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. C'est donc Anne qui salue, en fait, ce que le Seigneur va faire à travers son roi. Et Marie, vous connaissez son cantique, dans lequel il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches avides. Donc l'intervention de Dieu au sein de la société humaine se fait donc en faveur des pauvres. Ce qui est décrit plus précisément, c'est une situation d'injustice à laquelle le Seigneur porte remède par la venue de son roi. Les humbles vont connaître la gloire du Dieu qui les sauve. Là-dessus, eh bien, il y a la manifestation du royaume à travers la venue du roi avec son annonce initiale lorsque Jésus se présente. Pour commencer son ministère, il cite le prophète Ésaïe. Il prit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. En citant le prophète Ésaïe, je m'aperçois que Jésus annonce une bonne nouvelle aux pauvres lorsque Ésaïe annonçait une bonne nouvelle aux malheureux. Sont pas seulement les pauvres en argent, les pauvres en conditions sociales, mais ceux qui, de ce fait, sont devenus vraiment malheureux. Alors il y a le roi qui s'est présenté, et la condition humaine de Christ est décrite donc dans ce verset que je vous ai lu. Lui qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre. Le roi a paru dans la simplicité et il a partagé la condition des pauvres. Et il a ainsi montré à quel niveau il rejoignait les hommes pour les comprendre et les sauver. Il voulait les rencontrer au niveau de leur pauvreté. L'apôtre pourra donc rappeler cela dans ce verset de l'Épître aux Corinthiens. Et il est important de considérer la position sociale qu'a prise le Christ pour nous sauver. Parce qu'après tout, même en paraissant dans une famille régnante, en goûtant au luxe d'un palais, Jésus-Christ se serait de toute façon fait pauvre par rapport à la gloire céleste qu'il avait quittée. Mais il aurait été investi d'un pouvoir humain incompatible avec ce qu'il voulait révéler du royaume de Dieu, et il aurait été nécessairement associé à l'injustice qui est attachée aux richesses. N'oubliez pas qu'il parle des richesses injustes. Donc Jésus devait être pauvre pour donner aux richesses de l'esprit toute leur place. C'est ainsi qu'il n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Lorsqu'il s'est agi de s'acquitter du péage, il a eu recours à un poisson. Il a envoyé son disciple pour chercher de quoi payer le péage. Voilà, de même pour l'ânon sur lequel il est entré à Jérusalem. Il a envoyé ses disciples le chercher à quelqu'un qui a bien voulu le lui donner, le prêter. De même pour le lieu pour manger la Pâque. Hein, c'était des choses qui n'appartenaient pas au Seigneur. Il a été donc là où on l'a accueilli. Et ceci pour tout son ministère. Et d'ailleurs, il est écrit dans Luc 8 qu'il y avait un certain nombre de femmes, dont quelques-unes certainement de bonnes conditions sociales, puisque femmes de l'intendant d'Hérode, entre autres, qui l'assistaient de leurs biens. Donc voilà comment le Seigneur Jésus a vécu, sans manipuler aucunement ni le pouvoir, ni les richesses, ni les quelconques possessions de ce monde. Et puis ensuite, eh bien après le Seigneur Jésus, il y a eu ses apôtres. Et c'est à travers Paul principalement, bien sûr, que nous les discernons, les conditions de vie des apôtres, puisque c'est lui qui a le plus écrit. Et il est aussi écrit beaucoup de choses sur lui dans le livre des Actes des apôtres. Certains apôtres étaient peut-être plus sédentaires que l'apôtre Paul, mais nous pouvons affirmer qu'aucun apôtre n'a vécu dans le luxe ou le confort. Il est évident que leur vie de témoin de la résurrection empêchait tout enrichissement personnel. D'ailleurs, lorsque Paul a rencontré les apôtres, qu'il le rappelle dans l'Épître aux Galates pour la première fois, il est dit que il rappelle que les apôtres leur ont recommandé de bien se souvenir des pauvres, ce qu'ils ont bien eu soin de faire, dit-il. Donc les apôtres étaient sensibles à la situation des pauvres. Et bien sûr, Paul lui-même, si nous lisons dans Thessaloniciens, dans Corinthiens, peut se défendre d'avoir jamais eu la cupidité pour mobile, ou bien d'avoir tiré profit d'un quelconque chrétien. Jamais il n'a tiré profit de quelqu'un. Et bien plus que cela, il s'est retrouvé à plusieurs reprises dans des manques. Hein, un peu plus loin que le chapitre 9, c'est-à-dire au chapitre 11, verset 27 de cette même épître, la seconde aux Corinthiens. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité. C'est clair que sa condition de vie n'était pas dans le confort. Et c'est dans l'une de ces situations qu'il a trouvé du secours auprès des Philippiens. Et il le précise donc dans son épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 10 à 14. Je vous lis quand même le passage. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Une vraie situation de détresse qu'il connaissait. Bien sûr, il était adapté, mais il avait besoin d'un secours à ce moment-là, et les Philippiens sont ceux qui le lui ont apporté. Mais bien plus que cela, il savait profondément que, outre toutes ces tribulations, dans ses manques résidait sa richesse et sa production de richesse. Dans 2 Corinthiens, toujours au chapitre 6, nous lisons les versets 8 à 10. Donc, voilà, il expose son ministère, il est agi par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur quoique véridique, comme inconnu quoique bien connu, comme mourant et voici nous vivons, comme châtié quoique non mis à mort, comme attristé et nous sommes toujours joyeux, comme pauvre et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Voyez là, l'apôtre va plus profond. Nous n'avons rien, mais nous possédons toutes choses. Et c'était une réalité. Il ne possédait rien lui-même. Et pourtant, il possède en Jésus-Christ, dans l'assurance de la souveraineté de Dieu dans sa vie et de tout ce que le Seigneur lui apporte, il possède toutes choses. Et il vit dans la pauvreté, mais c'est ainsi qu'il en enrichit plusieurs. Par sa pauvreté, il enrichit, il répand, il donne les richesses de Christ autour de lui. Et par conséquent, donc, afin d'apporter les richesses de Christ pour elle-même, afin qu'elles ne soient pas associées à de la réussite humaine, l'apôtre ne concevait pas de rechercher des situations confortables pour prêcher l'évangile. Il le dit, je me plais dans les calamités et les détresses pour Christ. Parce que c'est ainsi qu'il apportait véritablement les richesses de Jésus-Christ. Et si c'était le cas de l'apôtre Paul, eh bien, on peut bien penser que c'était le cas des autres apôtres. Ils n'ont pas cherché à s'installer, à prendre un pouvoir dans ce monde, mais ils se sont au contraire dépouillés pour apporter uniquement Jésus-Christ et ses richesses. Maintenant, nous en arrivons à la masse des disciples. La première église est marquée immédiatement par l'abandon des biens personnels, le partage entre tous, de sorte qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux, est-il écrit, et donc, dans le chapitre 2, dès la suite de la Pentecôte, versets 45 à 46, ça vaut quand même la peine de les relire. Ils étaient chaque jour... je prends à partir du verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est dans ce contexte que le Seigneur a commencé à agir. Et au chapitre 4, on retrouve la même scène au partir de verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinrent sans propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Une inspiration personnelle, sincère, qui va vouloir être imitée de façon mauvaise par un couple. Et voilà, parce qu'on ne peut pas tricher avec Dieu. Mais voilà l'esprit qui régnait parmi les premiers disciples. C'est la vision de l'Église telle qu'elle émerge et telle que le Seigneur finalement la voit totalement. Alors ensuite, les choses ont changé, nous voyons bien justement dans les épîtres, mais nous pouvons garder déjà quand même cette vision initiale qui doit rester dans nos cœurs et travailler quand même pour nous donner la bonne position dans ce monde et vis-à-vis de nos frères et sœurs. Maintenant, il y a la composition qu'on peut dire sociologique des églises qui parle, puisque l'apôtre relève dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26 à 29 que il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. C'était là donc les milieux populaires, les milieux défavorisés qui avaient reçu l'évangile davantage que les milieux aisés ou intellectuels ou culturellement bien favorisés. Mais voilà, il y a une raison spirituelle à cela, c'est pas seulement une raison sociologique. C'est que l'apôtre donc poursuit. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Que nulle chair ne se glorifie, c'est la raison pour laquelle le Seigneur a appelé davantage dans les milieux défavorisés. Et c'est confirmé par Jacques, chapitre 2, verset 5. « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ?» C'est donc une constante, l'héritage du royaume, voilà ce qui est en jeu. Et celui-ci est réservé aux pauvres, selon la justice de Dieu, qui d'une part répare l'injustice des hommes, et d'autre part connaît les cœurs. Car bien sûr, dans l'absolu, les riches ne sont pas exclus du royaume, mais il leur est très difficile d'y entrer, dit le Seigneur. N'oublions pas que l'enseignement fondamental de Jésus commence de cette manière. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est transmis par Matthieu, cette parole. Et on comprend, et on a, voilà, dans l'exégèse, on comprend que ça vise notre vie intérieure, hein, et la manière dont nous nous regardons nous-mêmes devant Dieu. Si nous nous regardons comme des riches et des capables en nous-mêmes de posséder la connaissance de Dieu, nous ne pouvons pas la recevoir. Il nous faut nous vider de nous-mêmes pour pouvoir recevoir la présence et la connaissance de Dieu. Mais pas que, parce que cette parole, elle est aussi transmise par Luc, et il ne le dit pas de la même façon. Elle a, dans Luc 6, verset 20, « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Et tout ce que Luc retransmet du message de Jésus est beaucoup plus en liaison avec la situation sociale ou socioculturelle de ceux qui reçoivent cette parole. « Heureux, vous qui êtes pauvres », littéralement donc, « parce que le royaume de Dieu est à vous ». Il y a les deux aspects. Et je dirais que quand on est pauvre, il faut vraiment refuser le royaume pour ne pas le recevoir, puisque Jésus l'a préparé spécialement pour les pauvres. Je pense que notre société pousse les pauvres à sortir du cadre de leur pauvreté, en quelque sorte. Elle les éloigne ainsi du royaume de Dieu en leur procurant toutes sortes de richesses artificielles, de richesses secondaires quand même. Mais même dans cette société qui a quand même corrompu, on peut dire, la situation des pauvres, il reste des pauvres proches du royaume dans des situations qui peuvent les prédisposer à devenir riches en la foi. Et il s'agit pour nous de les trouver. Autre point que j'aborderai, c'est justement la pauvreté et la puissance dans la foi. Le Seigneur nous demande de passer par la case pauvreté pour recevoir le royaume. Mais ne pensons pas qu'après être passé par la case pauvreté, nous puissions ensuite rejoindre la case richesse pour le développement de notre témoignage chrétien. Ce n'est pas ce qui apparaît dans le témoignage des premiers saints. L'apôtre Paul cite en exemple aux Corinthiens les églises de la Macédoine, qui justement l'avaient aidé, mais là dans une affaire de soutien annoncée aux églises de Judée, hein, qui traversaient une crise climatique à ce moment-là, et les chrétiens de Judée étaient en difficulté matérielle, donc une collecte avait été lancée par les églises pour soutenir leurs frères. Et il met en évidence une qualité de cœur à ce moment-là qui doit nous habiter si nous voulons porter du fruit pour Dieu. C'est dans ce passage que j'ai pris en référence au début, là où il cite la situation du Seigneur Jésus lui-même, l'exemple du Seigneur Jésus. Et il dit ceci au verset 1 et 2. « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qu'ils ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Leur, je relève donc cette expression, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Et je vous poserai quand même cette question. Avez-vous cette pauvreté profonde? Moi, je la définirais comme le fait de regarder nos biens comme extérieurs à nous, et donc toujours à la disposition du Seigneur. Nous restons profondément pauvres, quels que soient les moyens humains, matériels, dont nous financiers dont nous disposons. Et si nous restons, et si nous avons cette pauvreté profonde, nous allons pouvoir être sensibles et agir là où le Seigneur nous le demande, avec les moyens de ce monde. Le développement d'une vie de foi puissante suppose de rester sur un terreau de pauvreté, afin que Dieu et sa joie fassent toute leur œuvre de salut et de secours. Les deux, le salut spirituel et le secours concernant les difficultés que des personnes peuvent rencontrer. Il est écrit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Eh bien, dans ce domaine du rapport à la possession des choses, cela s'applique. Il nous faut rester dépouillés de nous-mêmes, ne pas rechercher, après avoir été humilié, après avoir accepté l'humiliation, hein, ne pas rechercher la possession des choses. Et je le dis en particulier par rapport à l'évangélisation, la communication de la bonne nouvelle. Apporter le message du royaume de Dieu, c'est rejoindre le pauvre dans sa position et amener le riche à descendre de la sienne. Et on ne peut pas les convaincre, ni le pauvre, ni le riche, en n'étant pas pauvre soi-même. Les personnes doivent percevoir la richesse spirituelle qui nous habite. Quiconque veut enrichir son prochain spirituellement ne peut le faire à partir d'une position dominante. Un dépouillement de soi est toujours nécessaire pour transmettre les richesses du royaume de Dieu. Se mettre à niveau avec le pauvre permet à celui-ci de comprendre que les richesses du royaume de Dieu sont également pour lui, et de plus, le riche comprend qu'il doit laisser sa richesse, son intellectualisme, son influence, etc., pour recevoir le royaume de Dieu. Il devra s'humilier de tout cela pour être réceptif aux conseils d'en haut, sans regarder ni aux hommes, ni aux biens de ce monde. Alors il ne s'agit pas de jouer aux pauvres, mais il faut être réellement pauvre intérieurement pour recevoir les richesses de Christ, et devenir pauvre extérieurement pour les transmettre. L'étalage de puissance, toute forme de domination à travers l'aisance matérielle sont infructueuses pour la manifestation du royaume de Dieu. Les facilités que procure l'argent engendreront toujours une corruption de la foi et du message lui-même de la grâce de Dieu. Il y a un point de jonction entre la pauvreté spirituelle et la pauvreté matérielle, si bien qu'il nous faut aussi nous intéresser aux pauvres, à tous les pauvres, ceux que nous pouvons avoir au sein de l'Église, mais aussi aux pauvres de ce monde. Pratiquer le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi, hein. Et Jésus nous demande d'aimer et d'aider non seulement ceux qui nous aiment, mais même nos ennemis. Faites du bien, hein, même à ceux qui vous haïssent, etc., hein. Donc, il nous faut nous intéresser à tous les pauvres, tout simplement parce que nous leur ressemblons. Hormis la misère de laquelle nous sommes sortis. La misère tient à la condition morale de l'être humain. Or, le Seigneur, en effaçant nos fautes, nous a aussi donné une nouvelle mentalité. Il nous a tournés vers le bien, vers ce qui est juste, vers ce qui est vrai et glorieux. Nous ne sommes plus des misérables, mais nous restons des pauvres. Des pauvres pleins de dignité, pleins de la grâce et de la bonté du Seigneur, mais des pauvres quand même. Et si nous nous intéressons aux pauvres, nous allons trouver ceux que le Seigneur connaît d'avance et qu'il a réservés pour son royaume, mais nous rencontrerons aussi des misérables. Et ce sera parfois difficile de gérer la relation avec les misérables. Mais c'est le risque de notre témoignage auprès de ceux que le Seigneur veut encore amener. Pour que se renouvelle l'expérience que nous avons faite nous-mêmes d'être trouvés par Christ dans notre pauvreté, l'Église ne peut pas faire autrement que de rester au contact des pauvres, sinon elle se coupe de son vivier. Les pauvres sont le vivier de l'Église. Nous voyons dans la parole et par l'expérience, bien sûr, que le Seigneur a aussi donné des riches à son Église, à qui il donne le pouvoir de faire des largesses envers les pauvres et tous les ministères. L'apôtre mentionne ceux qui sont riches, mais qui doivent justement ne pas se confier dans leur richesse, mais profiter de ce que le Seigneur leur a donné pour exercer la miséricorde autour d'eux. Mais le ministère, la transmission de la parole elle-même, se fait sur une base de pauvreté. Les témoins restent pauvres pour apporter les richesses de Christ, et c'est vraiment cela que j'ai à cœur de vous transmettre, de rester dans cette position et d'être ainsi proche de ceux qui ont besoin d'être enrichis par Christ. Et vous pourrez les enrichir puisque vous possédez maintenant ces richesses en vous. Donc, voilà, que ce soit dans vos cœurs quelque chose qui demeure, que vous vous éloigniez de tout ce qui peut être captation, on peut dire, des richesses ou du pouvoir d'une manière ou d'une autre, pour donner librement, manifester, répandre la grâce du Seigneur. Amen. Seigneur Père, je veux vraiment te bénir de l'abaissement de ton Fils bien-aimé, de son dépouillement, lui qui est paru comme un simple homme et qui a marché dans l'obéissance et le service de ses frères pour les amener à te connaître, Seigneur, à recevoir une autre vision, une autre réalité que cette misère dans laquelle les hommes, quels qu'ils soient, se débattent, Seigneur. Merci de nous avoir révélé ta grandeur, ta bonté, toute ta vérité, Seigneur, tout ce qui est juste, tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, et de nous permettre d'y marcher humblement, Seigneur, pour pouvoir déjà nous-mêmes être dans cette paix, cet esprit de grâce, de renouvellement permanent en toi, Seigneur, et puis en avoir le rayonnement, pouvoir transmettre, donne à mes frères et sœurs ici dans cette assemblée, Seigneur, de rencontrer l'autre, de rencontrer, Seigneur, ceux que tu connais encore, que tu connais d'avance, Seigneur, dans leurs besoins, dans leur intense besoin d'être visités, sauvés, enrichis de ta grandeur et ta bonté, Seigneur. A fait cela, accomplis-le dans leur cœur et concrètement, Seigneur, ajoute-leur des pauvres qui seront devenus riches en toi. Amen. Amen.